Elles ont le parfum du mystère, la séduction de l'extraordinaire, le charme de l'impossible. Pénétrez avec moi dans l'univers des incroyables histoires. Le scoop à la télévision, c'est d'être le premier à donner une image choc d'un événement choc. Parfois, pour parvenir à ce résultat, on utilise des moyens incroyables. Le spectacle n'est pas loin d'être insoutenable. À l'orée d'un petit bois, le corps d'un homme est en train de brûler. Il est mort, ses assassins y ont mis le feu avant de disparaître. Il s'agit d'un assassinat d'un règlement de compte. La victime était un trafiquant de drogue et il a été éliminé par une bande concurrente. À présent, la caméra s'approche et montre le cadavre en gros plan. Car toute la scène est filmée pour une émission de télévision, Crime TV, qui passe sur la chaîne brésilienne M Tempo. Ce programme, qui montre des meurtres en direct, est l'un des plus populaires du pays. La caméra cesse enfin de s'attarder sur la macabre vision et se tourne vers le présentateur. Voilà, Souza est plus célèbre encore que son émission. 50 ans, barbu, brun aux yeux clairs, il a l'air à la fois sympathique et autoritaire. Il émane de lui un singulier pouvoir d'attraction. D'ailleurs, il se sert de ses dons ailleurs qu'à la télévision. Il est également député de la ville de Manaus, la capitale de l'État d'Amazonas. C'est un meneur d'hommes, un tribun, et il vient d'être réélu triomphalement pour la troisième fois consécutive. Il prend la parole d'une voix vibrante. « Pouvons-nous tolérer des choses semblables, habitants du Brésil ?» Aujourd'hui, le crime est partout. Tout le monde tue, dans la rue, à la maison, au travail. La caméra montre de nouveau le mort qui achève de se consumer. Celui que vous voyez là avait une femme, des enfants. Bien sûr, il a été victime d'un règlement de compte. Peut-être était-il aussi criminel que ses assassins, mais cette femme, ses enfants, je vous le demande, avait-il fait quelque chose pour mériter le sort qui est le leur? À présent, la caméra fixe Wallace Souza en gros plan. Sur son visage, l'émotion le dispute à la colère. Vous qui me regardez en ce moment, je vous le dis, il faut agir. Demandez au gouvernement, demandez aux autorités locales des mesures pour renforcer la sécurité, car il y va de la vie publique. Il n'y a pas de vie tout court sans elle. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Crime TV. Encore une fois, l'émission va battre des records d'audience. C'est d'elle que vont parler demain les Brésiliens, dans les transports en commun, entre voisins, entre collègues de bureau, et la popularité de Wallace Souza va s'accroître encore. Pourtant, il y a un téléspectateur qui ne partage pas cet avis. Le commissaire Thomas Cavalcanti de Manaus vient lui aussi de regarder l'émission. Et tandis que défile le générique de fin, il a ce commentaire « C'est lui l'assassin ». C'est forcément lui. Le lendemain, Thomas Cavalcanti, commissaire principal de Manaus, convoque ses collaborateurs pour leur livrer ses conclusions. Il a réuni tout le monde, car l'affaire Wallace Souza est prioritaire à ses yeux. À chaque fois, son équipe est la première sur les lieux. Hier, les assassins venaient de mettre feu au corps, et ils brûlaient encore. Nous ne sommes arrivés qu'un quart d'heure plus tard. Ben, c'est parce qu'il a de bons informateurs. Quels informateurs? Pour être le premier au courant d'un meurtre, pour savoir où et à quelle heure il va être commis, il faut l'avoir décidé soi-même. J'ai bien réfléchi. Il n'y a qu'une seule solution. Wallace Souza est le meurtrier, ou du moins, le commanditaire des meurtres. Cette déclaration, concernant l'un des hommes les plus populaires du Brésil, député de surcroît, stupéfie les policiers. Vous ne voulez pas dire qu'il tue des gens uniquement pour augmenter l'audience de son émission? Si! Si! Et si c'était cela, ce serait un monstre ou un fou? Et je ne crois pas qu'il soit fou. Je pense au contraire qu'il est suprêmement habile. Est-ce que vous avez remarqué qui étaient les 5 dernières victimes montrées à Crime TV? Des trafiquants de drogue? Exactement. Ils ont tous été abattus par une bande concurrente. Eh bien, la bande concurrente, c'est la sienne. Et il faisait d'une pierre deux coups. Il éliminait un adversaire et il se procurait un sujet d'émission. Encore une fois, les collaborateurs du commissaire Cavalcanti refuse de croire à cette énormité, mais il est justement à la pointe du combat contre la drogue, comme homme de télé et comme député. C'est pourquoi je vous dis qu'il est suprêmement habile. C'est tellement énorme que cela devient incroyable. Tous les criminels se cachent pour commettre leurs crimes. Lui, il les exécute sous les yeux du pays entier. Et il devient le dernier qu'on pourrait soupçonner. Et le commissaire Cavalcanti conclut : maintenant, tout cela, il faut le prouver. Et je compte sur vous pour le faire. Ce ne sera pas facile, car l'adversaire est coriace. L'enquête est menée tambour battant et elle obtient rapidement des résultats. Les policiers se penchent sur le passé de Wallace Souza, qui est loin d'être aussi limpide qu'on pouvait le croire. Lui aussi avait fait partie de la police et il en avait été renvoyé à la suite de différents vols. D'autre part, il s'était constitué avec sa famille un véritable réseau d'influence couvrant Manaus. Un de ses frères était adjoint au maire de la ville, un autre conseiller municipal et sa sœur employée municipale. Enfin, une perquisition effectuée à son domicile permet de découvrir 100 000 dollars en liquide et des armes automatiques. Tout cela aboutit à l'arrestation de 40 personnes inculpées pour homicide, formation de bandes armées et trafic de drogue. Une organisation à la tête de laquelle, selon le commissaire Cavalcanti, se trouvait Wallace Souza. C'est évidemment avec stupéfaction que le pays apprend que son idole ferait partie de ces criminels qu'il prétendait combattre de toutes ses forces. Quant à l'intéressé, il se défend avec sa faconde habituelle. « C'est une machination du crime organisé et de mes adversaires politiques. Si le Christ était crucifié une seconde fois, le coupable serait Wallace Souza !» Et son avocat proclame haut et fort qu'il n'existe aucune preuve formelle contre lui. Pour l'instant, Wallace Souza, qui bénéficie de l'immunité parlementaire, n'a pas été arrêté et l'instruction est toujours en cours. Mais si elle devait conclure à la culpabilité, le présentateur vedette de Crime TV aurait involontairement fait découvrir à tout le Brésil et au monde entier une des plus incroyables affaires criminelles qu'on ait connues, la sienne.
Pierre Bellemare sur RTL.
Un passé incroyable peut parfois, et des siècles plus tard, avoir des conséquences incroyables. Ah, il est vraiment trop sévère, le capitaine Blegg. Depuis que la frégate anglaise Bounty a pris la mer au début de l'année 1787, il ne cesse de faire administrer le fouet à ses hommes pour un oui ou pour un non. Parti de Londres, la Bounty a pour mission de gagner Tahiti pour y récolter des arbres à pin destinés à être replantés dans diverses colonies britanniques. Tant qu'on était en mer, les marins ont supporté, sans trop se plaindre, les sévices et vexations infligées par le capitaine. Mais le débarquement à Tahiti pour y chercher les fameux arbres à pin change tout. Le climat de rêve, les femmes, aussi belles que peu farouches, leur tournent la tête. Comment, après avoir connu un tel paradis, accepter l'enfer de la vie à bord? Aussi, dès que la Bounty reprend la mer le 4 avril 1787, une mutinerie éclate. Blegg et les marins qui lui sont fidèles sont abandonnés dans une chaloupe et après bien des difficultés parviendront à rejoindre l'Indonésie. Quant aux mutins, une partie seront repris, mais une autre partie, sous la direction de Christian Fletcher, parviennent à se réfugier dans la minuscule île de Pitcairn en compagnie de quelques Tahitiennes. Tout cela est connu. C'est la fameuse épopée des révoltés du Bounty qui a été incarné à l'écran à plusieurs reprises par Clark Gable, Marlon Brando, Mel Gibson. Mais le plus extraordinaire, le plus incroyable est à venir. Et il va se produire longtemps, très longtemps après. Alors que tout le monde les avait oubliés, les hommes de Christian Fletcher ont continué leur existence à Pitcairn. Ils étaient loin de tout. L'île la plus proche, Tahiti, était à plus de 2000 km. Et ils ont vécu à leur manière, une manière très particulière. Les mutins qu'ils étaient ne représentaient pas précisément des modèles de vertu. Les Tahitiennes, de leur côté, étaient plutôt délurés. Et ils ont constitué une communauté où les notions de couple et de famille n'avaient pas grande signification. Les années, les décennies, les siècles ont passé, et les habitants de Pitcairn ont continué à vivre en circuit fermé, pratiquant toujours la plus grande liberté de mœurs. Avec la célébrité soudaine des révoltés du Bounty, leur existence a un peu changé, mais guère. Ils se sont trouvés une ressource nouvelle avec la visite des touristes, qui n'étaient pas bien nombreux en raison de l'isolement de l'île, perdue toute seule en plein milieu du Pacifique. Telle est la situation lorsque débute le troisième millénaire. Pitcairn, territoire britannique minuscule, ravitaillé tous les 6 mois par cargo, est un endroit charmant, un lieu chargé d'histoire et une communauté d'une 50aine de personnes qui y vit en vase clos. C'est alors qu'une journaliste anglaise, Deep Birkett, a l'idée de faire un séjour dans l'île pour en tirer un livre. Et ce qu'elle découvre est proprement effarant. Au sein de la population de Pitcairn, les lois de la morale ordinaire sont totalement ignorées. Dans ce groupe, où par la force des choses règne la plus grande consanguinité, la pédophilie, le viol et l'inceste sont considérés comme normaux. Et apparemment, personne ne s'en plaint. Ne sont-ils pas les descendants des mutins ? Ils ne sont pas comme tout le monde, et ils en sont fiers. Que les hommes se complaisent dans ce dévergondage peut encore se comprendre, mais les femmes ont exactement le même point de vue. Elles sont violées dès leur enfance, parfois par leur propre père, mais cela ne les dérange pas outre mesure. Les habitantes de Pitcairn déclarent à la journaliste anglaise, qui n'en croit pas ses oreilles, ben « C'est comme ça, ce sont nos traditions. » Tradition ou pas, le livre d'E. Birkett, qui paraît début 2004, fait scandale en Angleterre, et la justice est saisie. Une enquête a lieu qui confirme cette incroyable liberté sexuelle proche de la bestialité. Elle confirme aussi l'état d'esprit de la population qui accepte cette dépravation sans problème. Mais là, il se passe quand même du nouveau. Alors que devant la journaliste, personne n'avait osé émettre la moindre critique devant les enquêteurs officiels, des voix divergentes se font entendre. Un certain nombre de jeunes femmes violées dans leur enfance acceptent de porter plainte. Seulement, craignant pour leur sécurité, elles quittent l'île et vont vivre en Nouvelle-Zélande. La justice est donc saisie et c'est sur leur témoignage qui sera diffusé grâce à un système de vidéoconférence que le procès va avoir lieu. Les débats s'annoncent d'autant plus sensationnels que le principal accusé, Steve Fletcher, maire de Pitcairn, est le descendant direct de Christian Fletcher, le chef des mutins. Bien entendu, il n'y a jamais eu de procès à Pitcairn. Et le juge Moore, qui a été désigné pour présider, devra s'organiser comme il pourra. Au mois de septembre 2004, une pirogue vient se ranger contre un gros bateau qui a jeté l'ancre non loin des rives de l'île minuscule dont on aperçoit la plage de sable blanc bordée de cocotiers. Un homme descend par l'échelle jetée le long de la coque du navire et prend place sans un mot dans la frêle embarcation. Après quoi, les piroguiers, sans dire un mot non plus, prennent le chemin du rivage. Tout est étrange, surréaliste dans cette scène. Il fait une chaleur moite, étouffante. Et pourtant, le juge Moore, qui se prépare à aborder, porte un costume noir, des chaussures de ville, une chemise et une cravate. Les lieux sont enchanteurs, paradisiaques, mais les rameurs, 4 hommes de race blanche, très bronzés, en short et t-shirt, arborent une mine farouche. Peu après, la pirogue accoste à un petit embarcadère de bois. Le juge Moore y monte. Il n'y a personne pour l'accueillir. Ses compagnons, toujours sans prononcer une parole, lui font signe de les suivre, et après quelques minutes de marche au milieu d'une végétation luxuriante, débouchent dans une minuscule agglomération faite de quelques cabanes, groupées autour d'une église protestante en bois. Quelques hommes et quelques femmes se tiennent sur le seuil de leur demeure, l'air hostile. Pour la première fois, le visiteur ouvre la bouche. « Où est le tribunal ?»« Ici, monsieur le juge. » Le lieu qu'il lui désigne, une sorte de grange en briques où caquettent quelques poules. L'homme ne fait aucun commentaire et déclare sobrement « La Cour suprême de Pitcairn siégera demain. » Le procès s'ouvre dans la grange, débarrassée de ses volatiles. Un ventilateur a été installé et tourne avec bruit. L'écran de vidéoconférence a été apporté par les 2 assistants du juge qui l'ont rejoint en même temps que 6 journalistes. Tout ce matériel fonctionne grâce au groupe électrogène dont est dotée l'île. Le reste des personnes présentes, qui forment l'assistance, 30aine d'hommes et de femmes, arborent, pour montrer leur solidarité avec les accusés, un t-shirt illustré d'un seul mot, « Bounty ». Le juge Moore frappe de son maillet. « Accusé, Steve Fletcher, levez-vous ! » L'interpellé, un homme brun ou d'un mat, qui a effectivement des allures de flibustier, obéit l'air bougon. L'écran de télévision s'allume. et l'image d'une jeune femme au physique de Vahiné apparaît. Elle commence son témoignage en direct depuis la Nouvelle-Zélande. Elle est visiblement émue et parle avec difficulté. « Steve Fletcher m'a violée lorsque j'avais 12 ans. Il m'a emmenée en promenade et il m'a jetée derrière un bouquet d'arbres. Il y avait des complices qui l'attendaient. Ils m'ont tenue pendant qu'il me violait. » Et vous ne vous êtes pas plainte? À qui? Le maire, c'était lui. L'autorité, c'était lui. Les policiers, ce sont les hommes de Pitcairn qui font cela à tour de rôle. Mais votre mère, les autres femmes, tout le monde s'en moque. Sur l'île, le viol ne veut rien dire. Le juge Moore insiste. Votre propre mère, pourtant, vous lui avez parlé. Vous lui avez raconté ce qui s'était passé. Oui. Elle m'a dit qu'il lui était arrivé la même chose quand elle avait mon âge, que c'était la tradition. Le public, qui était resté muet jusque-là, est parcouru par un murmure d'approbation signifiant qu'il est parfaitement d'accord avec la mère de la plaignante. Mais on va entendre plus étonnant encore. Une seconde jeune femme apparaît sur l'écran du tribunal. Elle accuse un autre homme, Terry Young, le meilleur ami de Steve Fletcher. « Il m'a violée lorsque j'avais 12 ans et le pire, c'est que cela s'est passé dans l'église. » Il ne semblait pas gêné. Non seulement il ne l'était pas, mais il y avait des fidèles qui étaient en train de prier. Eh bien, ils ont continué leur prière. « Vous ne les avez pas appelés au secours ?»« Si, j'ai appelé, j'ai crié. Ils m'ont fait signe de me taire. » Plus tard, j'ai été trouver le pasteur. Je vais tout raconter. Il m'a dit quelques mots de consolation. C'est tout. Le juge Moore, qui était resté jusque-là parfaitement impassible, manifeste pour la première fois quelque émotion. « Est-ce vrai, monsieur le pasteur? Si vous êtes présent dans l'assistance, je vous invite à vous manifester, je vous donnerai la parole en tant que témoin. » Pas de réponse, le pasteur n'est pas là. Le magistrat s'adresse alors au public. « Est-ce que l'un de vous sait où on peut trouver le pasteur? Auquel cas, je lui demanderai d'aller le chercher. » Mais seul un silence buté lui répond. Le juge Moore pousse un soupir et reprend le cours des débats. Ils se poursuivent ainsi jusqu'au soir et toute la journée du lendemain. Les faits ne soulèvent pas le moindre doute. Pas un des accusés ne nie les agressions sexuelles, mais tous en récusent la gravité. L'un après l'autre, Steve Fletcher en tête, il proclame sans gêne apparente et même avec fierté « Ce sont nos traditions, votre honneur ». À chaque fois, l'assistance ne peut s'empêcher de manifester bruyamment son approbation, à tel point qu'à la fin, le juge menace de la faire évacuer. Les journalistes présents sont abasourdis. Ils ont l'impression d'être sur une autre planète où les lois morales les plus élémentaires n'ont pas cours. Dans ces conditions, le verdict ne peut pas faire de doute. Le juge Moore, toujours vêtu de noir, le proclame de sa voix la plus solennelle après avoir tapé sur la table branlante. Le maire, Steve Fletcher, est condamné à 3 ans de prison pour 5 viols. Son complice Terry Young a 5 ans pour un seul viol, le fait que cela se soit passé dans une église ayant été retenu comme une circonstance aggravante. Un troisième homme est condamné à 2 ans de prison. Plusieurs autres se voient infliger des peines d'intérêt général. Steve Fletcher prend alors la parole. « Et où irons-nous, votre honneur? Il n'y a pas de prison à Pitcairn. Vous la construirez vous-même. Ce sera la tâche de ceux qui ont été condamnés à des travaux d'intérêt général et vous les aiderez. Et après, qu'est-ce qu'elle deviendra, cette prison? Si vous continuez vos pratiques, elle n'a pas fini de servir. Sinon, vous en ferez ce que vous voudrez. Un hôtel, pourquoi pas? » Le maire de Pitcairn, descendant du chef des mutins du Bounty, n'en a pourtant pas terminé. Il a encore une objection à formuler. « Lorsque le bateau vient nous ravitailler 2 fois par an, on a besoin de tous les hommes pour décharger. Comment fera-t-on? Je vous accorde de sortir de prison exceptionnellement ce jour-là. » La séance est levée. Ainsi s'est terminé ce procès qui semblait venir d'un autre monde ou d'un autre temps. Cela se passait il y a 5 ans. Aujourd'hui, les condamnés ont effectué leur peine et en apparence, la justice de Sa Majesté britannique a été efficace puisqu'aucune nouvelle plainte pour viol n'a été enregistrée à Pitcairn. Mais est-ce bien certain? Qu'il n'y ait plus de plainte, signifie-t-il vraiment qu'il n'y ait plus de délit? Est-ce que les mêmes mœurs ne continuent pas comme avant, mais en cachette? Ces ahurissantes traditions qui font la fierté des descendants et des descendantes des révoltés du Bounty.
Jusqu'à 13h30, Pierre Bellemare est sur RTL.
On dépeint souvent l'Américain moyen comme crédule. Mais quand il est courageux et crédule, Cela donne une incroyable histoire. Gregory Smith, 27 ans, grelotte dans les rues de Los Angeles. Il faut dire qu'il est 3 heures du matin et qu'on est en plein mois de décembre. Il semble pourtant chaudement vêtu. Il est enveloppé des pieds à la tête d'une cape de couleur grise sur laquelle sont tracées des lignes évoquant plus ou moins un mur de pierre. Gregory Smith est très très fier de sa cape qu'il a conçue lui-même et baptisée « cape d'invisibilité ». Elle remplit parfaitement sa tâche. La preuve, tout à l'heure, alors qu'il passait dans une ruelle mal éclairée, un ivrogne qui ne l'a pas vu lui a uriné dessus. Malheureusement, elle est en caoutchouc léger et pour ce qui est de protéger du froid, c'est autre chose. Gregory Smith continue donc de frissonner tapi dans l'ombre d'une rue mal famée de la ville. C'est, paraît-il, un des principaux lieux de rendez-vous des trafiquants de drogue et il va bien finir par en voir un. Mais le temps s'écoule sans qu'il aperçoive âme qui vive. Il faut croire que les dealers ont préféré rester au chaud. Une présence humaine finit quand même par se manifester. Un couple apparaît au loin. Grégory ne comprend pas leur conversation, mais elle doit être animée car il perçoit des éclats de voix. Comme ils s'approchent, il entend l'homme hurler « Tu vas crever !» En réponse, la femme pousse un cri déchirant. Alors, dans un grand geste, Grégory Smith ouvre sa cape d'invisibilité et apparaît, dans le costume qu'il porte en dessous, une tenue de Superman frappée d'un grand S. Le moment est enfin venu. Superman entre en scène. Pif comme l'éclair, Gregory, alias Superman, se précipite sur les lieux du drame. Le couple a environ son âge, la femme est toute petite, mais l'homme est d'une carrure impressionnante. Il s'interpose entre eux et s'adresse à ce dernier d'une voix terrible. « Laissez-la tranquille !» Son aspect doit être particulièrement effrayant car le costaud reste interdit, les bras ballants. Occupé à le foudroyer du regard, Grégory ne fait pas attention à la femme. Il a tort, car celle-ci lui envoie un violent coup de pied dans les chevilles. Puis, comme il se plie en deux sous l'effet de la douleur, elle lui aplatit le nez en s'écriant « Qu'est-ce que c'est que ce guignol ?» L'homme revient alors de sa surprise. Il rugit, cette fois en s'adressant à lui. « Tu vas crever !» Il l'attrape par son costume de super-héros et commence à le bourrer de coups de poing. Heureusement pour Grégory, une voiture de police qui passait par là s'arrête dans un crissement de pneus. Deux policiers s'en extraient. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le jeune homme se précipite vers eux, le nez sanguinolent, la cape déchirée, le costume tout froissé. « Aidez-moi, je suis le défenseur du bien !» Mais les policiers le repoussent sans ménagement. Et comme de leur côté, l'homme et la femme affirment avoir été agressés par lui, ils demandent leurs papiers aux uns et aux autres. Le couple a les siens, mais pas Grégory. Il a horreur d'enfreindre la loi, mais le costume de Superman n'a pas de poche, alors il n'avait pas le choix. Il essaie de se justifier. « J'ai pensé que, comme nous sommes au service de la même cause, je n'avais pas besoin de papiers. »« Quelle cause ? Je vous l'ai dit, le bien !» Pour toute réponse, il est emmené manu militari dans la voiture de police qui prend à vive allure le chemin du commissariat. En route, il tente encore de se justifier. « Je ne suis pas un malfaiteur, je fais partie du club !»« Mais quel club ? Le club des super-héros ! On est comme ça des centaines dans le pays !» Gregory Smith essaie d'argumenter, mais quand il se rend compte que ses interlocuteurs commencent à le prendre pour un fou, il n'insiste pas et il se tait. Ce qu'il dit est pourtant l'exacte vérité. Le club des super-héros existe bel et bien. Il regroupe environ 500 jeunes gens dans tous les États-Unis, parmi lesquels on compte quelques filles. Le mouvement est né spontanément après le 11 septembre. Les règles en sont précises. Les membres doivent porter des costumes qui évoquent ceux des héros de bande dessinée, ne pas être armés et parcourir les rues la nuit pour traquer le mal. C'est ainsi que de New York à San Francisco et de Chicago à Miami, on peut assister aux exploits nocturnes de la chouette noire, du scorpion vert, du dragon d'argent, du fantôme ou de la superwoman. Leurs cibles sont en priorité les terroristes, mais aucun n'en a rencontré jusque-là. C'est plutôt les trafiquants de drogue qui se trouvent parfois sur leur route et qui représentent, eux, un réel danger. Au retour de leur mission, ils se racontent leurs exploits sur Internet. C'est tellement vrai qu'au commissariat Gregory Smith a la surprise de rencontrer une consoeur. À peine arrivé dans le local grillagé où sont enfermées les personnes arrêtées durant la nuit, il voit venir vers lui une jeune femme vêtue d'un costume de cuir noir avec des bottes et un curieux bonnet de même couleur sur lequel pointent deux petites oreilles. « Tu es un super-héros ? » Grégory, en cet instant, n'a guère l'air d'un héros avec son visage sanguinolent son costume tout maculé et sa cape déchirée sentant l'urine. Il répond pourtant que oui. Et la jeune femme poursuit « Moi aussi, je fais partie du club. Je m'appelle Terrifica. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Le jeune homme lui raconte ses malheurs et il l'interroge à son tour. « Et toi, pourquoi tu es là ?» Il voit le visage de Terrifica s'altérer. Elle a une expression douloureuse. Elle semble même au bord des larmes. « Les flics m'ont prise pour une putain. Ils ont cru que je faisais le trottoir. » Pour Grégory, la vie de super-héros s'est arrêtée là. Il n'est plus retourné la nuit dans les rues de Los Angeles. Il avait compris que, malgré son déguisement, il n'était pas un personnage de bande dessinée. Il restait un être en chair et en os. Et la chair et les os, c'est fragile. Et puis parfois, ça fait mal.
Les incroyables histoires de Pierre Bellemare. Réalisé par Gaïa Becco. Rédaction
Grégory Franck,
Jean-François Namias et Jérôme Ecker. Documentation Francine Vincent.